Voilà, mes amis, on reprend notre cours à la mémoire de Monsieur et de Madame Cain. Et comme introduction, comme vous allez le voir dans le cours d'aujourd'hui, je voudrais dédier le cours aussi à la mémoire des deux petites filles dont je ne me rappelle plus le nom. Vous vous rappelez, il y a eu un Shirel et Sarah qui sont mortes dans un accident de voiture en allant à Eilat, une famille française. Et le père et la mère s'en sont bien sortis, ainsi qu'un autre enfant qui était un bébé dans la voiture. Mais les deux petites filles, qui étaient très 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 jeunes, sont décédées. Et hier, il y avait Akhnasat Sefer Torah. Et ils ont fait, donc les parents ont fait un Sefer Torah à la mémoire de leur fille. Et j'avoue très sincèrement, et ça va être bien sûr, c'est une introduction au cours, comme vous allez le comprendre, que j'ai jamais vu une joie comme ça de ma vie. Des Akhnasat Sefer Torah, on en a déjà fait, mais alors une explosion de joie comme ça, et le père, il dansait, et pourtant, ils ont traversé un drame inimaginable. Ça fait à peu près 2 ans maintenant, je ne rentrerai pas dans les détails ce que les parents ont traversé. C'est inexplicable et je ne peux pas expliquer, bien que je les ai suivis depuis 2 ans, ce sont mes élèves, donc je sais exactement ce qu'ils ont traversé. Et donc hier, il y avait vraiment une explosion de joie incroyable. J'ai jamais vu ça, même pas Simchat Torah, j'ai vu une explosion de joie pareille. Ça n'arrêtait pas de chanter, de danser, de quelque chose de fou. Et malgré le fait que le Sefer Torah ait été fait à la mémoire de leurs deux jeunes filles, il leur reste un seul enfant aujourd'hui. Et donc, des petites filles, elles avaient peut-être, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans, je ne sais pas exactement. Elles n'étaient pas des bébés, mais en tout cas. Et c'est une introduction au cours que je vais faire justement aujourd'hui. Vous vous rappelez que j'ai souvent expliqué que Rashi, au tout début de la Torah, nous dit que Hachem, Ala bemarchafto livro et haolam bebidat hadin. Il est monté dans son esprit de créer le monde sur le principe de la rigueur. Bon, le mot din, qui veut dire rigueur en hébreu, est un mot, on pourrait dire, très nuancé. Mais on comprend ce que ça veut dire, midat hadin. Ça veut dire, c'est toutes les catastrophes qui s'abattent dans le monde et dont le peuple juif est l'un des réceptacles malheureusement les plus importants. Mais bon, il faut dire la vérité, ce n'est pas que nous. Il y a des maladies partout, il y a des drames et des accidents partout, des guerres partout. Et si c'est vrai que le peuple juif est un petit peu, comme je dis toujours, le microcosme de l'humanité tout entière, et il prend peut-être plus que tout le monde, mais toute l'humanité vit sous le signe de Midat Hadin. Et la question qui se pose, et on l'a déjà posée souvent et on va le voir aujourd'hui de manière un peu plus approfondie, c'est pourquoi Hachem a décidé de créer le monde sur le principe de Midat Hadin. Pourquoi comme je ne suis pas un rave traditionnel, je me permets de dire à Hachem, bouge tes oreilles parce que je vais te rentrer dedans. Mais c'est vrai, ce n'est pas compréhensible comment Hachem se comporte avec le monde. Je m'excuse de redonner un exemple que j'ai déjà donné des milliers de fois. Mais la grande majorité des mamans qui rentraient, qui croyaient qu'elles allaient se doucher dans les douches, dans les camps de concentration et qui tenaient leur nourrisson dans les bras, quand elles arrivaient prêtes à rentrer dans la chambre à gaz, les nazis venaient, prenaient les enfants et les jetaient directement dans le four. Mais où tu es, mince? Mais où tu es? Mais c'est insupportable. Où tu es? Comment c'est possible? Mais dans quel monde on vit? Et encore une fois, cet exemple qu'on avait vu quelques heures sur YouTube, un Daesh qui vient de décapiter quelqu'un, qui prend la tête et qui la donne à ses enfants pour jouer au football. Qu'est-ce qui se passe? Mais où tu es? Où tu es? Hein? Non, mais nous, on est bien, on croit en Dieu, nous, je veux dire, au Hachem. Évidemment, et nous on vit pépère ici à Jérusalem, donc il n'y a pas de problème. Mais si on avait traversé ce que des millions et des millions et des millions d'hommes et de femmes et d'enfants ont traversé, est-ce qu'on serait toujours là en train de parler de Torah? C'est pas évident. Pourquoi Hachem veut créer le monde de Midat Hadin? Pourquoi? Alors on va rentrer dans notre paracha et on va expliquer Bezrat Hachem. Et on va commencer par poser une question. Vous savez que, on va en parler bien sûr, que Lot était le fils de Haran, le frère d'Avraham. Et je vais l'expliquer dans quelques instants plus dans les détails. Lot était le frère de Sarah. Ils ont perdu leur père Haran. On va voir dans quelques instants comment et pourquoi. Et finalement, Avraham, l'oncle, les a adoptés, ou plutôt il a épousé Sarah. Et il a adopté Lot, qui était encore un jeune enfant à ce moment-là. Et Lot a grandi avec Avraham, donc avec ce qu'on pourrait dire la lumière des lumières. Un homme, quel que soit le compliment qu'on peut lui donner, c'est une insulte par rapport à ce qu'il était. On ne peut pas décrire un homme comme Avraham, d'ailleurs ni comme Yitzhak, ni comme Yaakov. Et bien sûr, et leurs épouses, les pères et mères fondateurs d'Israël. Et donc, il a grandi dès son jeune âge avec un géant de moralité, de spiritualité. Et pourtant, excusez-moi de le dire, je vais le dire à la dino, mais c'est devenu une sacrée crapule, Lot. Il se sépare de son père adoptif, de son père, puisque le Talmud nous dit que quand quelqu'un adopte un enfant, il devient son véritable parent, au point que le Zohar ose nous dire une chose absolument incroyable. Dans le monde d'en haut, Moshe va rendre visite à Bithya toutes les semaines, et sa mère seulement une fois par an, sa mère biologique. Et le Zohar dit pourquoi? Parce que c'est Bithya qui a élevé, qui a éduqué Moshe, et donc il la considère plus comme sa mère que sa mère adoptive. Et donc le Talmud dit clairement que des parents adoptifs, on doit les appeler papa et maman. Donc Avraham était le père de Lot. Et pourtant, une fois arrivé en Canaan, il veut se séparer d'Avraham. Rashi explique qu'en vérité, il voulait se séparer et de Dieu et de la Torah d'Avraham. Il ne voulait plus entendre parler d'Avraham. Bon, très bien, ok, mais il choisit un endroit convenable où il choisit d'aller habiter, à Sodome, dans un endroit où tout le monde couchait avec des animaux, l'homosexualité, les lesbiennes, et pire que tout, si quelqu'un était pris à donner la tzedaka à un pauvre, il était immédiatement exécuté. Dans les lois de Sodome, il était interdit d'aider quelqu'un qui est dans le besoin. En plus, c'était des homos, pas forcément homos dans le sens aujourd'hui, mais homos, ils allaient avec des femmes, ils allaient avec des hommes, c'est-à-dire stam. Et on a, dans la parcha de cette semaine, quand les anges viennent chez Lot et qu'ils les reçoivent dans la maison, après toute la foule arrive, ils disent « sors-les, sors-les, on veut s'amuser ». Et qu'est-ce que Lot ose dire? Franchement, s'il était là, on lui fout notre coup de poing dans la figure. Qu'est-ce qu'il ose dire? « Bon, laissez-les, c'est mes invités, mais si vous voulez, je vous donne mes filles ». Non mais attends, mais c'est un taré mental, c'est pas possible. Un homme qui a vécu pendant des décennies à côté du géant de la morale, du géant de la lumière, il est prêt à donner ses filles. Et finalement, ils n'ont pas voulu parce qu'ils voulaient s'amuser avec des hommes. Ils ne savaient pas que c'était des anges, bien sûr. Mais on voit qu'il est tombé. Et l'endroit où il est tombé encore le plus bas, c'est tout de suite après Sodome, où il couche avec ses filles. Et Rachid dit qu'il était tout à fait conscient qu'il était avec ses filles. Donc comment qu'il a pu tomber si bas? Comment qu'il a pu tomber si bas? Alors beaucoup pensent que c'était Stam un petit voyou. Non, c'était pas un voyou. C'était pas un voyou du tout. Et vous savez quelle est la preuve que c'était pas un voyou? Je vais expliquer dans quelques instants. C'est parce que le Machiav, il sort de Lot. Hein. Il sort pas d'Abraham, il sort de Lot. David, il sort de Lot. Mais il sort de qui, David? De Ruth. Et Ruth, elle sort de Moab. Et comment le fils que l'aîné a eu avec son père, comment elle l'a appelé Moab? Ça vient de Moab, il vient de mon père. Elle a de la chutzpa aussi, hein. Osez dire, il vient de mon père. Mais en tous les cas, Ruth est sortie la plus grande juive de toute l'histoire d'Israël, après les mères, bien sûr. Ruth, qui est la matrice de David et la matrice du Mashiach. Donc là, c'est elle qui a enfanté celui qui va faire le tikkun du monde. Elle sort de Lot. Donc je ne te comprends pas, Hachem. Il quitte Avram, il va à Sdom. Il devient lui-même un corrompu, au point qu'il ose dire à la foule, je vous donne mes filles. Il couche avec ses filles et il mérite que le Mashiach sort de lui. Mais comment c'est possible? Ben oui. Parce qu'en vérité, Lot avait traversé un trauma. Et avec tout le respect qu'on lui doit, je le comprends. Bien que je vais expliquer un petit peu différemment tout à l'heure. Lot, il a vu son père brûler devant ses yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où, comme on le sait, Avram était le seul dans sa génération qui a osé s'opposer à Nimrod. Finalement, Nimrod l'a pris et il le jette dans la fournaise. Il rassemble toute sa famille, ses frères, etc. Il rassemble des centaines de milliers de personnes pour voir comment Nimrod va exécuter Coluche avec un camion. Non, je me trompe. Comment Nimrod va exécuter Abraham. Bon, on sait qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Il y a eu un miracle. Abraham a été sauvé. Et Haran était là, son frère était là. Et Haran, jusqu'au moment où il voit son frère sauvé, il était plus du côté de Nimrod que du côté d'Avram, puisque le texte nous dit, le verset nous dit, Echad aya Avram, il était le seul, Echad, il était le seul à s'opposer à Nimrod. Tout le monde craignait Nimrod. Et puis en plus, Rachid nous dit que Nimrod était un démagogue inimaginable. Je veux votre bien, je veux votre bien, je veux votre bien. Et tout le monde le croyait. Parce que c'était pas un dictateur dans le sens stalinien ou Hitler. C'était un dirigeant démocrate. Ça veut dire, je veux votre bien, je veux votre bien, je veux votre bien. Et tout le monde le croyait. Et quand Avraham a osé s'opposer à Nimrod, tout le monde était contre Avraham. Il dit, mais comment tu oses t'opposer à un homme pareil? Mais regarde, toute sa vie c'est pour nous. Et Rachidi, c'était un grand démagogue qui arrivait à tromper les gens, comme le serpent. D'ailleurs, le Zohar dit qu'il était là aussi l'une des réincarnations du serpent. Et le serpent, il vient sans faire de bruit. C'est pas comme un lion qui vient et qui t'attaque et tu le vois. Oui, tu le vois pas. Et donc, beaucoup de rabbanim plus modernes disent que Nimrod est le symbole thoraïque de ce qu'on appellera plus tard la démocratie. Ben oui, c'est quoi la démocratie? C'est je m'en mets plein les poches, d'accord? Et puis je fais croire à tout le monde que je veux leur bien. Avec des exceptions, il y a des hauts et des bas. Mais c'est plus ou moins ça. Il faut beaucoup prier, mes amis, parce que dans quelques temps, lorsque Lapid va devenir Rosh Memshala, il a déjà annoncé qu'il va tout faire pour créer deux États et partager Jérusalem. Donc, non, mais il veut notre bien, il veut qu'il n'y ait plus d'attentats. Voilà, il veut qu'il n'y ait plus d'attentats. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils auront un État, ils pourront faire ce qu'ils voudront, et ça sera la catastrophe. Ça sera pire encore que ce qu'on a vécu. Mais non, mais il veut notre bien, bien sûr. En tous les cas, qu'Hachem le protège. En haut, pas en bas. Et donc, on continue. Haran voit Avram sauvé. Et à ce moment-là, il se dit, bon, ben, si Avram a été sauvé, c'est lui qui a raison. Et dans sa pensée intérieure, personne ne l'entend, il dit, ben, maintenant, je vais me mettre du côté d'Avraham. Jusqu'à présent, il était du côté de Nimrod. Encore une fois, parce que Nimrod n'était pas un dictateur dans le sens stalinien. Il se faisait passer pour quelqu'un de très très bon. Et puis tout d'un coup, Nimrod le voit, Haran, il vient vers lui, il lui dit, t'es de quel côté toi maintenant, que ton frère a été sauvé? Haran dit, excuse-moi, je suis désolé, je suis maintenant du côté de mon frère. Haran appelle des soldats, ils le prennent, ils le jettent dans la fournaise. Et il lui dit, si tu es du côté de ton frère, tu vas être sauvé comme ton frère. Mais lui n'est pas sauvé comme son frère, parce qu'il n'a pas le niveau de son frère. Et Lot voit ça, Sarah aussi, et il le voit brûler devant les yeux. À ce moment-là, Lot hurle. Il regarde vers le ciel et dit, « Mais attends, tu te fiches de qui ? Pourquoi mon oncle est sauvé et mon père est brûlé devant mes yeux ? Alors tu n'existes pas. Abraham s'est trompé, tu n'existes pas. » Et à ce moment-là commence une fissure dans son âme qui va aller en s'agrandissant, jusqu'au jour où la fissure a tout cassé et il lâche tout. En vérité, nos maîtres nous expliquent que la raison pour laquelle Lot a tout lâché, c'est pas parce que c'était un voyou, sinon Hachem n'aurait pas permis que le Mashiach sorte de lui. C'est parce qu'il a eu un trauma terrible. Il a eu un trauma terrible. Et ce trauma-là, c'est ce qui l'a amené à la conviction que c'est pas possible que Dieu existe. Comment Dieu peut me permettre de voir mon père brûler devant mes yeux ? Et j'imagine qu'il a dû hurler, le père. Et donc, il a, avec le temps, il a tout lâché. Et même si Avraham a tout fait pour essayer de le consoler, puisque Avraham était bien sûr conscient du trauma qu'il y avait dans Lot. Mais même Avraham n'est pas arrivé. Dieu après y arrivera en faisant sortir David et le Mashiach de Ruth qui vient elle-même de Lot. Mais en tout cas, Avraham n'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'on comprend de là ? Et on pourrait donner, je vais donner un ou deux exemples encore, mais qu'est-ce qu'on comprend de là ? C'est qu'effectivement, le monde a été créé Bemidat Hadin, et la grande majorité des hommes et des femmes ne s'en sortent pas quand ils ont traversé ce qu'ils ont traversé. N'oublions pas qu'après la Shoah, 90% des juifs ashkénazim ont tout lâché. Je vous ai déjà raconté cette histoire, je m'excuse, je reviens toujours dans les histoires, mais mon père avait une sœur qui après la Shoah s'est mariée et a caché à ses enfants qu'ils étaient juifs. Et quand sa fille avait 15-16 ans, une fois, sa mère, donc ma tante, n'était même pas au courant de ce qui allait se passer. Ils avaient quitté l'Europe, ils étaient partis vivre en Amérique, à New York. Et puis ma tante a décidé d'envoyer sa fille chez mes parents. Elle avait 15-16 ans à cette époque-là. Et mon père lui a rêvé. Et en plus, elle était antisémite. Mais alors, vous imaginez pas, elle haïssait les juifs. Elle ne savait pas qu'elle était juive. Son père et sa mère étaient juifs, mais les deux avaient traversé la Shoah. Et donc, ils ont refusé de se considérer comme juifs, refusé de dire à leurs enfants qu'ils étaient juifs. Et elle arrive chez nous à la maison, et puis mon père décide de lui révéler qu'elle est juive. Bon, ben, quand elle a entendu qu'elle était juive, moi je me rappelle, jusqu'à aujourd'hui, j'ai cru qu'elle allait sortir un revolver et tirer une balle dans la tête. Pourquoi ? Parce que tellement elle haïssait les juifs. Et puis, après, elle téléphone à sa mère. Elle dit, mais maman, mon oncle m'a dit qu'on est juif. C'est vrai ? Il se fiche de nous ? Et là, la mère, elle craque et elle lui révèle, oui, ma fille, vous êtes juif. Voilà. Et bon, ils sont restés complètement assimilés. Ils ne sont jamais revenus à la Torah. Toute la famille du côté de ma tante, etc. Bon, peu importe. Même certains se sont mariés avec des non-juifs aussi. Bon, mais malgré tout, au moins ils savent qu'ils sont juifs. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et parce qu'ils ont traversé un trauma tellement inimaginable. Comment voulez-vous qu'ils puissent croire encore que Dieu existe ? D'accord ? Comme je dis toujours, d'accord, bon, vous pouvez me jeter des pierres, je m'en fiche. Mais qu'on arrête de nous saouler avec le Dieu de l'amour, le Dieu de la grâce, le Dieu dans le matin. Mais ils se foutent de nous, les rabbins et les curés, mais c'est pas possible. Non mais attends, mais le Dieu de l'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez que la plus grande escroquerie jamais dite sur terre, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, que tout le monde comprend que tu dois l'aimer véritablement. Mais pourquoi la Torah dit, au lieu de dire ve'ahavta le're'acha, tu aimeras ton prochain? Pourquoi elle dit « kamocha » comme toi-même ? Parce que trouvez-moi un homme qui s'aime réellement. Vous connaissez beaucoup d'hommes qui s'aiment réellement ? Ben non, hein. Non. Si c'est un Ashkenaz, comme ça toute la journée. Si c'est un Sfarad, la vitrine est belle, très bien. Mais en tout cas, vous connaissez beaucoup de gens qui sont bien dans leur peau, qui s'aiment véritablement, dans le sens un amour réel, parce que l'amour nous donne des forces, l'amour nous donne un courage inimaginable. Alors pourquoi la Torah dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même » C'est-à-dire, comme toi tu ne t'aimes pas, ben t'aimeras pas les autres. Oui. Et vous savez quelle est ma preuve de ce que je dis? C'est qu'un jour, quelqu'un qui voulait se convertir est venu voir Hillel. Et il lui a dit, explique-moi sur un pied toute la Torah et je me convertis. Hillel a pris le verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais il n'a pas traduit comme tous les idiots le traduisent. Il lui a dit, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça n'a rien à voir avec la traduction classique rabbinique ou curée. D'accord? Il lui a dit, ce verset, comment qu'il faut le comprendre? Ne fais pas de mal à autrui, le mal que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne lui fais pas. Mais Hillel a refusé de traduire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que ce n'est pas le sens du verset. C'est une des plus grandes escroqueries jamais émises par tous les représentants soi-disant de Dieu qui nous font croire, tu aimeras ton prochain. Quoi, Dieu est un Dieu d'amour? Ben mince alors, des centaines de milliers d'enfants qui sont arrachés des bras de leur mère, qui sont jetés dans le four vivant, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu, on ne le comprend pas. On ne le comprend pas. Alors ne me prenez pas à la lettre, je n'ai pas dit qu'il faut l'abandonner. D'accord? Parce que moi aussi je suis déguisé avec une casquette, le machin. Bon, j'essaye de faire semblant, quoi, mais c'est quand même... C'est pas facile. C'est pas facile. Mais on va expliquer comment qu'on peut tenir. On va expliquer. D'accord? Bekitsour, maintenant vous avez compris qu'en vérité, Lot, c'était pas un mauvais bougre. Il a tout simplement jamais surmonté l'épreuve qu'il a vue de ses yeux, voir son père hurler, brûler, transformer en cendres devant ses yeux. Il a jamais pu surmonter cette épreuve. Et comment voulez-vous qu'il continue à croire en Dieu? Surtout à cette époque-là où 99,9% des gens étaient idolâtres. Le premier qui a découvert le Dieu 1, c'était en vérité Abraham. Donc ils étaient tous nés dans l'idolâtrie, même Abraham est né dans l'idolâtrie. Abraham a fait le chouva à l'âge de 15 ans. Mais jusqu'à 15 ans, Abraham était idolâtre. Jusqu'au jour où il décide de casser toutes les idoles de son père. Mais il est né dans l'idolâtrie lui-même. Alors Haran et Lot aussi. Donc c'est sûr qu'après voir son père brûler, comment voulez-vous qu'il croie en Dieu? C'est impossible. Oui.
Comment vous expliquez que ce qui s'est passé avec Lot ne se soit pas passé avec Haran? Le traumatisme. Deux enfants face à la même épreuve. L'un, ça le traumatise jusqu'à je ne sais pas quoi le degré. Et l'autre, eh ben, apparemment, elle a la force de le surmonter. Donc continue sa vie avec son homme qui devient son mari. Il est en place.
Oui, c'est une excellente question. Je vous répondrai très simplement, mais on pourrait en parler pendant des heures. Parce qu'une femme mariée, elle sait que son rôle, c'est de construire son mari. Et elle développe en elle des forces inimaginables.
Mais elle n'était pas mariée,
ce moment-là. Comment? Mais dès qu'Abraham les a récupérés, ils se sont mariés. Sarah était beaucoup plus âgée que Lot. Et donc, elle avait 10 ans de moins qu'Abraham. Quand Abraham avait 100 ans, elle avait 90 ans. Elle a eu Isaac à 90 ans. Donc imaginons qu'Abraham l'a épousée quand il avait, je ne sais pas moi, 22, 23 ans. Elle devait avoir 13, 14 ans à cette époque-là. Et donc, à partir du moment où elle rentre dans son rôle de femme authentique, elle comprend que toute sa vision du monde, c'est construire son mari. Et donc, ça va l'obliger à développer des forces inimaginables en elle qui vont l'aider à surmonter le trauma qu'elle a traversé. Mais d'un autre côté, vous avez malgré tout un petit peu raison, Sarah est morte comment la semaine prochaine? En apprenant que son père était prêt à sacrifier son fils. Ça veut dire que ça prouve bien que même si elle sait qu'il ne l'a pas sacrifié, mais l'idée même qu'Abraham était prêt à tuer Yitzhak, elle est morte d'une crise cardiaque, ou peu importe, mais en tout cas elle est morte sur le moment. Pourquoi? Mais parce que ça prouve bien qu'elle avait encore malgré tout une blessure énorme en elle, qu'elle est arrivée à mettre de côté en s'occupant de son mari et en s'occupant après de Yitzhak. Mais malgré tout, on voit que finalement, quand elle a appris que son fils allait peut-être mourir, et tout a ressurgi et elle a craqué. Tout a ressurgi et elle a craqué. Je me rappelle une autre histoire, enfin je ne rentrerai pas dans les détails, d'un homme qui lui avait été, c'était des amis de mes parents, que lui, il avait été à Auschwitz, il s'en était sorti, etc. Et pendant toute sa vie, mais on se demandait s'il ne sort pas du Gan Eden, ce bonhomme-là. Un homme d'une force, d'une joie, d'un courage, etc., etc. Comme s'il n'avait jamais été à Auschwitz. Mais quand il a commencé à vieillir, vous savez que quand on vieillit, tout le passé revient. Et son passé a commencé à revenir. Et il a complètement craqué. Il a eu l'Alzheimer, le Parkinson, et finalement il est mort d'un cancer en 3-4 ans. En 3-4 ans. Du jour où il s'est mis à la retraite et qu'il n'avait plus d'activité, plus rien, tout son passé a ressurgi, paf, il est parti. Pourquoi? Et il l'a dit à son épouse, il l'a dit d'ailleurs aussi à mes parents, il a dit, parce que comme je ne fais plus rien, j'arrête, je replonge dans mon passé, je n'arrive pas de revoir ce qui m'est arrivé à Auschwitz, et tout ressort, et paf, en 2-3 ans, il est parti. Et donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Sarah. Peut-être qu'en pensant à la mort de son fils, elle a revu peut-être la mort de son père, et elle est morte d'une crise cardiaque. Mais pendant tout le temps qu'elle était vraiment à côté de son mari et occupée à construire son mari, elle avait d'autres pensées. En tous les cas, donc, encore une fois, avant de passer maintenant à la deuxième partie, qui est le sacrifice d'Yitzhak, on comprend donc que, et je vous l'affirme vraiment à 90%, en vérité, 90, si pas 99% de ceux qui s'éloignent de Dieu, que ce soit chez nous ou chez les autres, peu importe, c'est parce qu'ils ont, pour la grande majorité d'entre eux, traversé des traumas qui sont très très durs. Bien sûr qu'il y a de vrais voyous, évidemment qu'il y a de vrais voyous, mais ce n'est pas la majorité. Et si on doit parler du peuple juif, d'accord, après ce que le peuple juif a traversé, d'accord, l'Inquisition, les croisades, vous savez ce qui se passait pendant les croisades, d'accord? Vous savez d'où sont partis les croisés? Je vais raconter une histoire que vous ne savez peut-être pas. D'où sont partis les croisés? Quel était le point de départ des croisés? De Camargue. Non, de Camargue. Il y a un fort là-bas que j'ai d'ailleurs visité. Il y a un fort énorme et tout le monde connaît l'histoire. Ils sont partis de Camargue, donc du sud-ouest de France. Mais au lieu d'aller à Marseille, de prendre le bateau et de traverser la mer, ils sont remontés jusqu'au nord de la France et après ils ont tout redescendu. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient envie de brûler toutes les communautés juives. Et ils ont brûlé toutes les communautés juives de France, enfin celles qui étaient sur leur chemin. Ils sont remontés jusqu'au nord. Comment? Non, mais les croisés étaient français au départ. Ah. Oui, oui, bien sûr. Absolument. Et ils ont brûlé. Ils prenaient toutes les communautés, ils les rentraient dans la synagogue et ils mettaient le feu. C'est-à-dire que des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont péri pendant les croisades. L'Inquisition, n'en parlons pas. Les pogroms, n'en parlons pas. Ne parlons pas de la Shoah. Comment voulez-vous que les gens, après tellement de traumas dans leur ADN, qu'ils ont hérité de leurs parents et leurs parents de leurs parents et leurs parents de leurs parents, comment voulez-vous qu'ils tiennent? C'est impossible. Comment? Oui, aussi bien sûr l'assimilation, mais l'assimilation est la conséquence des épreuves. L'assimilation est la conséquence des épreuves. Vous savez, 99,9% des juifs ashkénazes qui se sont assimilés avant ou après la Shoah étaient tous des enfants de père ou de grand-père qui avaient le chapeau, les péotes et la barbe. Comment? Encore une fois, il y a une minorité de gens qui décident de s'assimiler. Attention, ceux qui sont nés de familles assimilées, ça je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui... Vous savez, il y a cette photo traditionnelle que vous pouvez voir à Yad Vashem, où on voit une grande photo, vous voyez, le grand-père avec l'épée haute et la barbe, le père sans barbe avec une kippa sur la tête, et le petit-fils, d'accord, sans kippa, sans rien. Ça veut dire, vous voyez la photo traditionnelle d'une famille ashkénaze, en 3 générations, il n'y a plus rien. Alors, après, ceux qui sont nés complètement cela, Bichlal, on ne les juge même pas. Ceux qui sont nés dans un kibbutz laïque ou qui sont nés à Tel Aviv, etc., comment voulez-vous les juger? Ils ne sont pas responsables, ils n'ont pas reçu d'éducation. Mais au départ, l'assimilation est venue de gens qui, au départ, étaient de familles très pratiquantes. Mais avec tous les traumas qu'ils ont traversés, une grande majorité, la majorité plutôt, a laissé tomber à cause du trauma qu'il y avait en eux. Et certains ont décidé d'aller s'amuser, c'est fort possible, mais ça reste une minorité. Je parle par rapport à la cassure qu'il y a eu au départ.
Et pourtant, il a pas dénoncé Abraham.
Qui?
Il a surpassé ses instincts.
Et parce qu'il savait que c'était son père, malgré tout. Voilà. Mais lui-même, non, je suis d'accord avec vous, mais lui-même, malgré tout, il a quand même fait ce qu'il voulait. Il s'est comporté comme d'une manière incroyable. Okay. Mais parce que comme si, je pense qu'il avait en lui peut-être cet esprit de vengeance, de dire à Dieu, va te faire voir. Après ce que tu m'as fait, tu crois que je vais te servir? Va te faire voir. Et je vais exprès me comporter d'une manière horrible pour te montrer que je ne crois pas en toi. Voilà. Et encore une fois, je veux dire... Alors, maintenant on va passer à la dernière partie. Le sacrifice de Yitzhak. Et là, on va voir que Avraham est arrivé à surmonter le trauma qui était dans Lot. Et comment? Et on va expliquer. Revenons maintenant au sacrifice d'Yitzhak. D'accord? Excusez-moi, Hachem, bouge-toi les oreilles. Mais encore une preuve de plus, comme quoi, je veux dire, il a perdu la tête. Hein. Attends. Ça fait des décennies que Hachem promet un enfant à Abraham. D'ailleurs, depuis le jour où il dit « Va en Israël », enfin en Eretz Knaan, il lui dit « Ta descendance sera une grande descendance », etc. Déjà, il lui fait un remède comme quoi il aura, oui, une descendance. Abraham a 134 ans lorsque Hachem lui demande de sacrifier son fils qu'à 34 ans. Ça veut dire que ça fait plus de 70 ans pratiquement qu'il n'arrête pas d'entendre que Hachem lui dit « Tu auras un enfant, tu auras un enfant, tu auras un enfant » jusqu'à ce qu'il l'ait à l'âge de 100 ans et Sarah à 90 ans. D'accord? Donc Hachem réalise sa promesse. On connaît tous ce verset où quand Sarah a entendu qu'elle aurait un enfant, elle s'est mise à rire. Pourquoi? Parce qu'elle était toute fléchie, toute vieille. Et pardon, j'en vais de travers. Et Hachem lui redonne un corps de jeune fille. Un miracle. Elle a nouveau un corps de jeune fille. Et elle peut nouveau avoir un enfant. Et après, Hachem dit à Avraham, prends ton enfant et sacrifie-le sur le Har-Tzion. D'accord? Alors, évidemment, excusez-moi, tous les tarés disent, ben, c'était une épreuve, hein, une épreuve. Mais attends, je comprends, il a perdu la tête, c'est pas possible. Mais enfin, on demande à un père de sacrifier son fils. On demande à Avraham de sacrifier Yitzhak. Alors que pendant 70 ans, t'arrêtes pas de me dire que Yitzhak Ikarele Chazera, que toute ta descendance viendra de Yitzhak. C'était l'un des conflits connus entre Ishmael et Yitzhak. Ishmael était le Bechor, et il était aussi d'une femme extraordinaire. Agar était une femme extraordinaire. Et quand il entend finalement que Hachem choisit Yitzhak, je comprends qu'il a aussi pété un câble, Ishmael. Et tout d'un coup, Hachem dit, prends-le et tue-le. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Vous savez, pendant la Shoah, combien de fois les nazis rentraient dans des ghettos, donnaient un revolver au père et disaient « Tire sur ta famille » pour s'amuser. Dans 99,9% des cas, qu'est-ce que faisait le père? Il prenait le revolver, il se tirait une balle dans la tête. C'est ce qu'il faisait. Et Abraham, il est prêt à aller tuer son fils. Donc là-haut, il y a un problème, et en bas, il y a un problème. Comment c'est possible?
Est-ce qu'Abraham n'était pas à l'épreuve à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là?
À l'épreuve?
Oui.
Oui, mais comment qu'il accepte une chose pareille? Pourquoi il n'a pas dit à Hachem? Je vais vous donner un exemple. Dans la même paracha, dans la paracha, Vayera, quand Hachem annonce à Abraham qu'il va détruire Sdom, Abraham a le culot de dire à Hachem, toi qu'on appelle le juge de toute la terre, tu ne sais même pas rendre justice? Avoir un sacré culot pour dire une chose pareille. Et quand tu lui demandes de tuer son propre fils, pas un mot, rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, quand Hachem parle de détruire la plus grande pourriture de la terre, Sodom, il réagit. Et quand tu lui tuais son propre fils, qui était un Kadosh Elion, un Tzadik Katsum, pas de réaction, rien. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique. Quel est l'homme aujourd'hui qui accepterait qu'on lui mette un revolver dans la main et lui dire « Vas-y, tire sur ton fils ». Non, je dis un père à qui on dit « Tire sur ton fils ». Oui, ça, vous avez raison. Mais eux le font pour monter au Gan Eden. Enfin, dans leur conception à eux. Comme il y a eu récemment en Afghanistan. Ils sont faits de Daesh sont fait sauter dans une mosquée. Mais parce que eux, ils pensent qu'ils vont directement au Gan Eden après. Donc ils le font pas pour se faire du mal. Ils le font pour avoir un raccourci, quoi. Ils en ont marre de ce monde et ils préfèrent se retrouver là-haut avec Allah, c'est tout. Et parce que bon, parce qu'on les éduque comme ça aussi, hein, parce qu'on leur dit, si tu te sacrifies, tu iras directement au Gan Eden, tu seras près de Mahomet, etc. Donc bon, ils gobent toutes ces choses-là, ils les croient. Comment ? Comment ? Ah oui, en plus 72 vierges, alors. Ouais. Voilà. Qui c'est qui va hésiter ? Et donc, voilà. Donc, évidemment, avec tout ce qu'ils entendent depuis qu'ils sont gosses, comment voulez-vous qu'ils se flinguent pas ? Surtout si c'est pour tuer ce qu'eux considèrent comme des ennemis de leur vision de l'islam. Mais bon, en tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je vais commencer à boucler la boucle. Et je vais revenir sur la première faute de l'histoire, la faute de Adam. Comme vous le savez, la faute de Adam, on peut l'expliquer pendant plusieurs milliards d'années sans se répéter, puisqu'elle contient toute l'histoire du monde. Je vous pose une question. L'homme est la seule créature qui a été créée avec le Yetzer HaTov et le Yetzer HaRa, les forces du bien, les forces du mal. Et Adam a aussi été créé avec les forces du mal et les forces du bien. L'homme est la seule créature qui a le libre arbitre. C'est-à-dire que Hachem lui a donné la possibilité de se battre lui-même pour imposer son Yetzer HaTov à son Yetzer HaRa. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Évidemment, il n'y avait pas d'arbre, et tout ça, ce sont des codes. Mais qu'est-ce que ça veut dire en vérité ? La connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, si je veux être un homme qui arrive à lutter contre le mal, je dois forcément connaître le bien et le mal. Je dois savoir ce qui est bien et je dois savoir ce qui est mal. Parce que si je ne sais pas où est le bien, si je ne sais pas où est le mal, comment voulez-vous que je me batte contre le bien et le mal ? Comment voulez-vous ? Donc je dois forcément... Bon, 90% des hommes ne savent pas où est le vrai bien, où est le vrai mal. Bien sûr. Mais si je veux savoir, parce que c'est « être à da'at », da'at, c'est-à-dire la connaissance dans le sens profond du terme, la connaissance du bien et du mal. Hachem lui dit, ne mange pas de cet arbre-là. Ben, la première fois que Hachem a commencé à disjoncter, c'était à ce moment-là. Quand il lui dit, ne mange pas de cet arbre-là. Pourquoi il lui dit une chose pareille ? Mais attends, tu me donnes le bien et le mal, tu me donnes le libre arbitre et tu me dis, je ne veux absolument pas que tu saches où est le bien et où est le mal. Mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? C'est comme si tu dis à un homme ne te marie pas, c'est comme si tu dis à un homme ne mange pas, ne respire pas. Je ne comprends pas. Et comment tu veux que je vive alors, si je ne sais pas où est le bien, où est le mal ? En vérité, on va rentrer dans un domaine qui est très important. On en a déjà parlé, mais je veux le revoir d'une manière beaucoup plus profonde. En vérité, toutes les épreuves que Hachem nous envoie, c'est le sod, le secret de la Emouna. C'est quoi la Emouna ? Alors, évidemment, discours rabbinique classique, il faut croire en Dieu et accomplir les commandements. Très bien. C'est ça la Emouna. Non, ce n'est pas la Emouna, c'est du bidon total. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas accomplir les commandements, qu'il ne faut pas croire en Dieu. Ça, ce n'est pas la Emouna. Non. La Emouna, ça me rappelle une histoire que j'ai déjà racontée 1000 fois à vous aussi, mais ce n'est pas grave. Je me lasse jamais de raconter des histoires. D'accord ? Comment s'appelle la chassidoute qui est à Natania, là ? La chassidoute... Tzanz. Le rabbi de Tzanz est déporté à Auschwitz. L'ancien, pas l'actuel. Déporté à Auschwitz, lui, sa femme, ses 11 gosses. Dès qu'ils arrivent, la femme et les 11 gosses, directement, allez vous laver. Et lui, il arrive à tenir. Rabbi de Tzanz. Il y a un nazi, je vais raconter mille fois cette histoire-là, mais c'est pas grave. Un nazi qui repère, malgré bon, qu'il est rasé comme tout le monde, et il n'a pas de cheveux, il n'a rien, que il a quelque chose dans son regard qui n'est pas comme les autres. Il sent que celui-là, c'était peut-être un grand avant. Et il décide de le tabasser tous les jours. Et tous les jours, il court derrière le nazi et il le tabasse avec une barre de fer. Il le tabasse, il le tabasse, il le tabasse. D'accord ? Un jour, il s'écroule. Le rabbi de Tzanz, le père de l'actuel rabbi de Tzanz, il s'écroule. Le nazi met sa botte sur son cou et il lui dit « Alors dis-moi, c'est qui le peuple élu ?» Bon, j'aime pas le mot « élu » parce que c'est pas marqué dans la Torah, mais bon... Eux, les nazis, ils vont selon la traduction. C'est le peuple choisi, c'est pas le peuple élu. Mais il lui dit, c'est qui le peuple élu? Et le rabbi Don Sands répond, c'est celui qui est sous la botte. Le nazi est tellement choqué par le courage de cet homme. Il avait en plus son flingue là pour lui tirer une balle dans la tête. Il le laisse, il s'en va et il le frappera plus jamais. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le rabbi de Nassau racontait cette histoire tous les ans au moment où ça lui était arrivé. Il lui dit, le peuple élu, c'est celui qui est sous la botte. Et l'autre est tellement choqué du courage de ce squelette que, voilà. Quelle est la première chose que le rabbi de Nassau fait quand il arrive en Israël? Il construit l'hôpital, l'Aniad. Il aurait pu construire des yeshivot, il aurait pu construire, non. Il a compris sa mission, l'hôpital, l'Aniad. Il construit cet hôpital-là. Un homme absolument incroyable. Et tous les ans, il racontait cette histoire-là quand il était sous la botte.
C'est marrant qu'il ait dit ça, parce qu'on pourrait croire qu'il avait dit ça par rapport à Esav, sous le talon d'Esav.
Bon, peut-être qu'il faisait allusion aussi à ce genre de choses, possible. Mais en tout cas, oser dire, quand tu es sous la botte d'un nazi qui tient son flingue et qui te pointe sur la tête, le peuple élu, il est sous la botte, bon, c'est sûr, tu fais chemin Israël, c'est fini. Le nazi a renoncé. Il l'a lâché. Et il n'a plus jamais frappé. Tellement il était impressionné par le courage de cet homme-là. Et c'est comme ça qu'il est sorti d'Auschwitz et qu'il s'est retrouvé après Natania. Et donc, comment il a pu dire une chose pareille? Comment? C'est la Emouna. Comprenez bien une chose, d'accord? Qu'on arrête de nous saouler avec les bêtises « Je crois en Dieu, j'ai la Emouna ». Non. Quand c'est que tu as la Emouna, quand tu traverses des épreuves inimaginables, incompréhensibles, inexplicables, au point que tu aurais raison même de crier, de lui dire Et malgré tout, tu acceptes, et je vais expliquer comment et pourquoi, tu acceptes de te dire que même si je ne comprends pas, même si je suis révolté, même si ce qui m'arrive est absurde, même si c'est inacceptable, je suis sûr qu'il y a quelque chose de caché là-dedans qu'un jour je comprendrai et je ne me révolte pas et je continue à me connecter. Ça, c'est la véritable Emouna.
On pourrait traduire Emouna plutôt que de dire foi, on pourrait dire confiance.
Plus encore, comment qu'on appelle l'entraînement en hébreu? Emunim. J'ai déjà expliqué ça. Maintenant, quand Sayeret Matkal ou toutes les Sayeret font des Emunim, vous imaginez un petit peu la difficulté? Vous savez que ça, il ne faut pas l'enregistrer, mais vous savez que parmi les Emunim de Sayeret Matkal, il y a des séances de torture? Ben oui, parce que si jamais ils tombent chez les ennemis, ils vont être torturés. Il y a des séances de torture dans Sayeret Matkal? Et pas que, il y a aussi d'autres Sayarot où il y a des séances de torture. Pour si jamais ils sont prisonniers, qu'ils puissent résister. Et donc on leur apprend à souffrir sous la torture.
On leur fait passer des discours de lapide.
Comment ?
On leur fait passer des discours de lapide.
Ben on les lapide. On les lapide. C'est ce que Lapide va faire, il veut nous lapider. Et donc, en tous les cas, incroyable, le mot « s'entraîner à devenir un soldat » se dit Emunim, dont la racine c'est Emouna. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Merci de l'avoir rappelé. Que finalement la Emouna, c'est pas je crois. La Emouna, c'est je suis dans une situation inacceptable. J'ai toutes les raisons de m'écrouler, de tout envoyer balader. Et je ne tombe pas. Parce que je sais qu'Hachem est en train de m'entraîner pour faire de moi un véritable héros. Voilà. Je donnais cet exemple au début du cours de Arnasat Sefer Torah hier. Mais c'était inimaginable comment un père qui vient sous ses yeux de perdre deux filles, il a dansé. J'ai jamais vu une joie pareille. Et après, ils m'ont demandé de faire un Dvar Torah, et j'ai fait un Dvar Torah, et j'ai expliqué que vous avez, c'est pas pour rien que vous avez fait sans le savoir, Arnasat Sefer Torah, dans la paracha qui parle du sacrifice d'Yitzhak, mais vous vous rendez même pas compte, vous êtes arrivé, toi et ta femme, vous êtes arrivé au niveau d'Abraham. C'est-à-dire un niveau de Emouna qui te place au-dessus de toutes les règles de ce monde. Et maintenant, j'explique. En vérité, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est une force qui est dans l'âme de chacun d'entre nous. Une force, explique nos maîtres dans les secrets de la Torah, qui est connectée directement, elle reçoit cette lumière de la Sphira de la Bina. La Bina, j'ai déjà expliqué des milliers de fois, c'est la première Sphira qui est au-dessus de ce monde, puisque ce monde a été créé en 7 jours, avec les 7 Sphirotes du bas, et la Bina, c'est la 8e Sphira du bas vers le haut, ça veut dire qu'elle est au-dessus de ce monde. Elle fait partie d'une réalité qui est au-dessus de toutes les forces de ce monde. D'ailleurs, quelle est la raison qui fait qu'on est circoncis le 8e jour? Par rapport à la Bina. Pourquoi le 8e jour? Comme nos maîtres l'expliquent, par quel mérite Israël a traversé l'histoire? Mais Israël n'était même pas au niveau de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre des Babyloniens. Même pas l'ombre, de l'ombre, de l'ombre des Perses. À plus forte raison des Grecs. Et ne parlons pas des Romains, qui étaient la plus grande puissance qu'il y a jamais eu sur Terre. Et pourtant, où sont les Romains? D'accord? Bon, aujourd'hui, on peut manger des spaghettis en Italie, mais c'est pas des Romains. Où sont les Grecs? Les Grecs, c'est le pays le plus pauvre d'Europe. Où sont les Perses? Il y a les Iraniens, mais ça n'a rien à voir. Et alors, les Irakiens, par rapport aux Babyloniens, c'est même pas comparable. Où ils sont? Et Israël, le peuple le plus poursuivi, est toujours là. Pourquoi? Parce que Hachem nous a fait le plus grand cadeau jamais fait à aucun peuple. La circoncision à l'âge de 8 jours. Vous vous connectez à la Bina, vous recevez en vous une force qui est au-dessus de ce monde et vous ne pourrez jamais disparaître. Et si vous me posez la question, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud, mais les femmes, et alors? Eh bien, le Talmud répond quelque chose à pleurer. Il dit, les femmes n'ont pas besoin de se circoncire. Elles ont la bina en elles. Comme il est dit, bina yetera nitna laisha. Toutes les forces de la bina se trouvent dans la femme. C'est-à-dire que la femme a en elle une force qui naturellement la place au-dessus de la nature. D'accord? L'homme, il a besoin de se circoncire pour ça. Il a besoin de faire un acte. Mais la femme, elle naît avec la bina en elle. Bina yetera nitna laisha. Comment? Quoi? Et c'est pour ça, je l'ai déjà dit, qu'il dit Shasani Kirtsono, ça veut dire je suis comme toi, tu es au-dessus de ce monde, moi aussi je suis au-dessus de ce monde. Absolument. Et donc, finalement, comme je dis toujours, hein, je veux dire, aujourd'hui, nous les mecs, on se croit les uns, hein, mais au moment de la délivrance, ça va chauffer. Hein. Oui, parce que, qu'est-ce que dit le roi Shlomo déjà depuis 3000 ans? Echetraïl à Teret Baala. La femme vertueuse est la couronne de son mari. La couronne, elle est en dessous les pieds ou elle est sur la tête? Ce qui veut dire qu'un jour, l'homme se rendra compte que finalement, sa couronne qui est au-dessus de lui, c'est son épouse. Et il reconnaîtra que finalement, que pendant des millénaires, il a joué au mec, mais qu'en vérité, la seule vraie force dans ce monde, c'est la femme. Et sans elle, comme disent nos maîtres, un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Ça veut dire que c'est un animal, c'est pas un homme. Il n'a pas la dimension d'homme. Par contre, nos maîtres ne disent pas une femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme. Nulle part c'est marqué. Mais un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. C'est-à-dire que la femme, elle a en elle des forces. Bien sûr qu'elle doit se marier. Mais l'homme, lui, s'il n'est pas marié, c'est pas un homme. Adam chez Eno Isha, Eno Adam. Donc vous voyez le rôle de la femme. On continue. La Bina, c'est une force qui est au-dessus de la nature. En réalité, maintenant, je conclue et j'explique. Pourquoi Hachem a décidé de créer le monde Mebidat Adin. Pourquoi Hachem nous met dans des épreuves inimaginables? Pourquoi Hachem a mis spécialement le peuple juif dans des épreuves inimaginables, incompréhensibles, que personne ne peut expliquer? Même si, encore une fois, des tas de peuples ont traversé aussi des choses incroyables. Mais surtout Israël, pourquoi? La réponse est parce que Hachem veut que nous arrivions à allumer l'étincelle de la Emouna qui est dans notre Neshama, afin de nous élever au-dessus de toutes les limites de ce monde. C'est quoi la sortie d'Égypte? C'est que le mot Égypte n'existe pas dans la Torah. C'est une pure invention des traductions. Qu'est-ce qui marque dans la Torah? Mitzrayim. C'est quoi le mot Mitzrayim? La racine Metzar, le monde des limites. Le monde des limites. Ça veut dire que ce monde matériel est un monde de limites, à tous les niveaux. Je ne peux pas être en même temps au nord et au sud. Je ne peux pas unir le feu et l'eau. Je ne peux pas être en même temps en été et en hiver. Je ne peux pas avoir 60 ans et en même temps 15 ans. On est extrêmement limité. Mais au-dessus de ce monde limité, il y a un monde qui commence avec la Bina, qui lui est complètement au-dessus de toutes les limites de ce monde. Et cette force, Hachem l'a mis en nous, c'est la Emouna. Mais pour pouvoir allumer la Emouna, il faut qu'on accepte, et c'est ce que Avraham a compris à la différence de Lot. Lot est resté prisonnier à l'intérieur de son trauma. J'ai vu mon père brûler devant mes yeux, je ne crois plus en Dieu. Et je vous dis de la manière la plus sincère, je ne lui fais aucun reproche. J'accepte. Pourquoi? Parce que si un fils voit son père brûler devant ses yeux, qui c'est qui osera dire « Ah, pourquoi t'as abandonné Dieu ?» D'accord? Et si on avait brûlé ton père devant tes yeux, tu serais resté, toi, à côté de Dieu? T'en sais rien. Alors ne joue pas avec mes épreuves à moi. D'accord? Mais c'est vrai que si Lot était arrivé à se connecter à cette force qui est dans son âme, qui est la Emouna, à ce moment-là, il se serait élevé complètement au-dessus de toutes les limites de ce monde. Il se serait connecté à Hachem d'une manière qu'on ne peut même pas expliquer, qui est surnaturelle. Et finalement, il aurait traversé son trauma. Mais dites-moi d'une certaine manière, je ne parle pas des individus juifs, mais le peuple juif, comment ça se fait qu'on est toujours là? Je l'ai expliqué à cause de la Brit Mila, où les femmes ont la Brit Mila en elles. Mais c'est parce que dans l'ensemble du peuple juif, on a une Emouna inimaginable. Vous connaissez toute cette histoire que j'ai déjà racontée. Quand les Américains ou les Russes arrivent et ils ouvrent les portes, c'était les Russes qui ont ouvert les portes d'Auschwitz, les Américains d'autres camps, il y a des centaines de prisonniers squelettiques qui ont demandé aux soldats « Est-ce qu'il y a des Juifs parmi vous qui ont une paire de tefilines ?» Alors qu'eux, ils venaient les mains remplies de conserves, de pain, de ci, de ça, et des Juifs demandent « Vous avez une paire de tefilines ?» Mais comment tu peux sortir d'Auschwitz et demander une paire de tefilines? Mange! Mais ça veut dire qu'eux étaient arrivés à se connecter à la Emouna qui était en eux. À cette force surnaturelle qui m'élève au-dessus de toutes les limites de ce monde, de toutes les épreuves de ce monde, et qui font de moi quelqu'un qui est complètement connecté à l'infini, et qui ne ressent plus du tout les douleurs de ce monde. Et c'est ça en vérité le plus grand cadeau qu'Hachem a fait à son peuple, le plus grand cadeau qu'Hachem a fait au monde en général. Pourquoi nous vivons dans un monde d'épreuves, dans un monde de difficultés? Parce que Hachem sait que si nous arrivons à nous connecter à cette force qui est dans notre âme, on va complètement sortir de toutes les limites de ce monde et on ne ressentira plus du tout la douleur de l'épreuve et on va devenir, si j'ose dire, comme Dieu, complètement au-dessus de tout ce qu'il y a dans ce monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'homme s'appelle, il a été créé Betzalem Elohim, à l'image d'Elohim. Pourquoi à l'image d'Elohim? Parce que c'est le potentiel qu'il y a en nous. Alors bien sûr, la grande majorité n'ont pas ce réflexe d'aller chercher dans leur âme où se trouve la force de la Bina, la force de la Emouna pour la dévoiler et hop, monter tellement haut. Mais encore une fois, une histoire que j'ai déjà racontée des milliers de fois, mais ce n'est pas grave. Moi, je vous dis encore une fois, je ne me gêne jamais de raconter les mêmes histoires. C'est un maître et son élève qui, les deux, étaient dans les camps de concentration pendant la Shoah, pas dans le même. Ils perdent leurs femmes, leurs enfants, machin, etc. Et puis, après la guerre, ils montent en Israël. Et le Talmide, en tant que son maître, a survécu et au camp, et il est à Jérusalem. Il fait tout pour le voir. Et la réponse, vous la connaissez, dès que je vais la dire. Ils se retrouvent l'un en face de l'autre, et puis ils se mettent à pleurer. Parce que rien que tout le passé revient, tout ce qu'ils ont vécu il y a quelques années revient. D'accord ? Et puis il y a un moment, le rabbi n'en peut plus, il tape sur la table et il dit à son élève, celui qui a la émouna n'a pas de question. Celui qui n'a pas la émouna n'aura jamais de réponse. Celui qui a la émouna n'a pas de question. Ça veut dire quoi, n'a pas de question ? Ça veut dire que la émouna nous élève à un niveau où on ne pose même plus de questions. Je ne comprends pas, je ne sais pas, mais je sais que ce que tu fais, c'est pour mon bien et un jour, je comprendrai pourquoi. Au moment de la délivrance, on comprendra rétroactivement tout ce qu'on a traversé. Aujourd'hui, je ne comprends pas, mais je n'ai pas de questions. Pourquoi je n'ai pas de questions ? Parce que la émouna me connecte à un niveau qui est tel que je n'ai pas de questions. Je continue, je fonce. Donc mes amis, cette paracha est une paracha vraiment extraordinaire. Et encore une fois, on doit vraiment, vraiment, vraiment travailler sur nous-mêmes, savoir que Hachem nous a dotés d'un cadeau surhumain, d'un cadeau inimaginable, que nous ne pouvons trouver qu'au moment d'une épreuve. Rares sont les hommes et les femmes qui ne traversent pas des épreuves dans leur vie. Et à ce moment-là, surtout chez nous, Israël, et à ce moment-là, on doit se dire que puisque l'épreuve est là, c'est en vérité un cadeau qu'Hachem me fait pour me connecter à la émouna qui est dans mon âme et m'élever et faire de moi un véritable héros, un véritable guibord qui n'a peur de rien, qui ne craint rien et qui me connecte de toutes mes forces à Hachem au-dessus de ce monde. Amen, Vechen Yeratzon.
Et Emouna, c'est aussi, il y a le mot Amen dedans, il y a He et Vav. Donc, il représente Hachem.
Absolument.
Dans ce monde, et Amen, c'est la gematria de Adonai et tout ce qui est Vav.
Absolument. Dans le mot Emouna, dit notre cher ami, il y a le mot Amen, qui a pour valeur numérique l'union entre les deux noms divins, Avayé, Yudke Vavke et Adonai. Ça veut dire le Dieu d'en haut et le Dieu d'en bas. Et donc c'est ça le mot Amen. Ça veut dire je crois qu'il y a une connexion entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Voilà.
Je crois qu'il y a